C'est beau. Les billets pour Meshuggah ont été gagnés. Merci aux auditeurs de ne plus m'envoyer le mot de passe d'Audrey Pinchot. 418-971-101. Si vous voyez quoi que ce soit sur la route, les amis, c'est par texto que ça fonctionne. Donc, merci d'être nos yeux, nos oreilles. De même que si vous voulez communiquer avec nous, c'est par là que vous devez le faire. À la météo aujourd'hui, je ne sais pas si tu es sorti hier soir, mais ça a descendu jusqu'à moins 15. Hier, on a quand même eu une journée qui était somme toute raisonnable au niveau du mercure.
Bien, vraiment.
On avait un peu de pluie, mais c'était quand même confortable. Moins 15.
C'est impressionnant. À matin, mettons, là, j'en trouvais moins drôle. Puis quand je suis arrivée chez nous hier soir.
Est-ce que tes portes étaient collées à matin?
Ben, en fait, moi, c'était comme givré là, dans mon. Ouais. Mes portes n'étaient pas collées. J'étais correct à ce niveau-là.
Moi, ils m'ont prêté une voiture de location. Là.
Oui.
Je me sens très homme dans mon grand caravane.
Absolument. Blanche,
et,
c'est ça?
Tu l'as vu?
Ah oui, oui. Ça te va à merveille. C'est parce qu'il faut savoir, Vanessa, que Yann est habitué avec son Wrangler, là, son Jeep Mall, tu comprends?
Puis là, j'ai fait quelques tonnes. Ce qui fait en sorte qu'on me dit qu'il faut que je le fasse réparer.
C'est ça qu'ils disent.
Et là, ils m'ont prêté une voiture chez Enterprise, un grand caravane, c'était le seul qui restait dans la cour pendant la semaine de relâche. Puis là, j'ai dit, ben, coudon, ce sera ça. Mais là, je suis en train de tomber en amour avec ce véhicule-là.
Wow!
Parce qu'il y a de l'espace, t'es bien, t'es confortable. Véhicule chauffant, le volant est chauffant.
C'est tout ce qu'il te fallait pour te changer.
Il est full équipe. Fait que là, c'est rendu que je fais des babayes aux autres gars qui ont des grands caravanes.
Oh là là!
Je suis en train d'embarquer dans le sec.
Tu t'habitues. Non, mais c'est bon. Écoute, si c'est tout ce qu'il fallait pour te changer, on est
puis,
là.
Moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de voitures. Puis des fois, j'ai comme un 20-30 minutes où j'ai du lousse, où je peux me coucher.
Fait que là, dans la vanne, ça fait bien.
Je l'ai pas encore fait dans la vanne. Je le faisais dans mon truck, bien entendu. Je cantais le bain au 45.
Ouais.
Je pars 20 minutes, puis après ça, je me réveille top shape. Mais le grand caravane, là, je vais l'essayer.
Dan Caron te salue, il fait dire que t'es dans sa gang, parce que Dan a une vanne.
Salut mon oncle Dan!
Grise. Oui, ben vous êtes des mononcles,
mon
mais vous
Marceau,
êtes heureux.
Mon oncle Dan.
Absolument.
Ben oui, exact. Mais c'est une étape. Je suis en train de vivre une étape dans ma vie. Je m'en vais vers là. Il y a des gens qui me disent on a pitié pour toi, Marceau. Ouais, c'est.
Franchement. Ouais. Ah non, regarde, il y a quelqu'un qui dit c'est le signe de masculin absolu, la caravane.
Oui!
Regarde.
Exact, mais il faut que tu la remplisses d'enfants en arrière.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est
faut
ça
encore la ouais. Faut que tu aies encore la mère de tes enfants à ta droite.
Oui.
Avec les 18 enfants en arrière.
Sinon, ben non, mais regarde, tu peux le mettre sur le fait que tu as des projets de vie.
Ouais.
Tu veux devenir un homme libre, tu veux faire de la van life.
Oui.
Ça passe
je
bien
veux
dans
pas qu'une fille m'aime juste pour mon char.
C'est ça.
Tu comprends? Hey,
Yann, tes priorités s'en viennent aux bonnes pièces. Je suis fier de toi.
Aux bonnes pièces.
Ouais, bonnes pièces.
Mes priorités s'en viennent aux bonnes pièces.
Exact.
Salut les filles. Hey, quel plaisir de l'accueillir en studio, c'est Vanessa Daigle. C'est pas la première fois que vous l'entendez, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Elle est nutritionniste et on va jaser d'hyperphagie. On connaît beaucoup la boulimie, on en a régulièrement parlé, l'anorexie aussi. Mais qu'est-ce que l'hyperphagie? Ça va être le sujet du jour. Juste avant, j'ai le goût d'abuser de toi, Vanessa Daigle.
Oh. Mais vas-y.
Ah ben, c'est la première fois qu'une fille me dit ça.
Oui, c'est
parce
ça,
que
c'est
t'as une caravane. Je suis charmée.
Le taux de gras, là. Moi, j'entends souvent parler du taux de gras au gym.
Ouais.
Bon, il y a des gars qui sont de plus en plus ouverts là, à parler de ça. Avant, les gars étaient dans les années 90, là, quand j'étais, moi, à la fin de mon adolescence et tout ça. Ils parlaient pas du taux de gras. Mmh. Je côtoyais pas ces gars-là. Puis là, ben, des fois, je les écoute parler dans le vestiaire. Puis là, ils me parlent de pourcentage de gras. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait en sorte que le pourcentage... Est-ce que le pourcentage de gras peut déterminer ta santé? Tu sais, il y a des gars qui sont en compétition qui peuvent descendre jusqu'à 3-4 % de gras. Puis je me dis, si maintenant qu'ils sont sur l'article de la mort,
ouais, c'est très peu.
Si jamais il y a un moins 15 demain, c'est les premiers à mourir. Mm-hmm. Tu sais, c'est.
c'est maman clair. Disait, les gros survivront. C'est comme ça qu'elle serait confortée.
Oui, puis il y en a d'autres qui disent, ben moi, j'ai juste des gros os.
C'est facile.
C'est pour ça que j'ai de la gras. Comment ça fonctionne le taux de gras? Puis c'est quoi cet indicateur-là? Pourquoi on est fixé là-dessus quand on s'entraîne?
Ben en fait, j'ai envie de te dire, c'est carrément associé à l'apparence, là.
Ouais.
Parce que, en fait, l'affaire avec le taux de gras, c'est que t'as beau avoir tous les muscles du monde, s'ils sont cachés avec en dessous d'une masse adipeuse, tu seras pas découpé, tu seras pas cut, t'auras
pas
c'est
ça que j'ai.
Physique.
J'ai tous les muscles du monde.
Et moi, je protège mes abdos, c'est ce que je dis constamment. Faut les garder en
fait
bon état.
T'auras pas le physique que tu souhaites. Fait que moins que t'as de gras, plus que, en fait, tes muscles sont définis. T'sais, c'est
ouais.
ce qu'on appelle être fit. Fait que c'est pour ça que, tu sais, dans le monde du fitness, c'est très, très, très populaire. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport à la santé, en fait, plus la science évolue, plus on réalise que c'est un raccourci intellectuel de se dire que le pourcentage de gras est associé à un meilleur taux de santé. En fait, ce qui va bien au-delà du pourcentage de gras, c'est les habitudes de vie. T'sais. Maintenant, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des obèses métaboliquement sains. Ouais. Ça veut dire que si tu as une personne qui est en surpoids, mais qui a des saines habitudes de vie, ben, elle peut être bien plus en santé, justement, que quelqu'un qui a un pourcentage de gras très maigre. Très maigre, je te dirais, ben, t'sais, c'est sûr, ça dépend dans le sens. C'est sûr que cette personne-là, probablement, elle mange bien, relativement bien, là, mais souvent, ça flirte aussi avec le trouble alimentaire rendu là. Puis,
moi, quand je vois les gars au gym avec des six-packs, Vanessa, je me dis qu'ils mangent pas assez.
Ben souvent, ils mangent très peu. Tu te casses ça, là.
Ils essayent vraiment aujourd'hui de faire une
petite thérapie. Pourtant, je fais les mêmes exercices qu'eux autres, puis j'ai pas ce six-pack-là. Tu sais.
Mais je te dirais que chez les femmes, là, il y a un enjeu, parce que souvent, les femmes qui vont descendre très, très bas, c'est tellement, justement, restrictif qu'après, souvent, c'est des femmes qui vont reprendre du poids, puis qui vont avoir de la misère à retrouver quasiment... Ils peuvent avoir de la misère à trouver un poids normal, là, que je vais mettre en grosse parenthèse. Là. Ouais, parce que c'est tellement restrictif que tu peux pas le maintenir. Fait
moi,
que...
je suis déjà tombée là-dedans. Là. C'était ridicule. Dans on m'avait parlé dans le déficit calorique. J'étais rendue que je mangeais genre du 900 000 calories maximum par jour.
C'est tellement pas beaucoup.
900 rien, à 1000 calories.
À 1000 calories.
C'est impossible de combler tes besoins nutritionnels avec aussi peu de calories.
Puis j'ai perdu là, le 10 poids, écoute, puis ben, ça a duré à peu près 3 mois. Parce que quand je me suis mis à avoir faim, tu comprends, puis à vouloir remanger normalement, ben, c'est sûr que ça a pas toffé, puis j'ai repris le poids initial à cette étape-là dans ma vie. Là.
Mais est-ce que les scientifiques ont identifié le fameux taux de gras qui va faire en sorte que c'est le poids, le taux
idéal,
de gras idéal? Parce que les gars peuvent descendre plus bas, à ce qu'on me dit, surtout au niveau de la compétition, peuvent descendre autour de 3-4%. Donc, ils ont de l'air, tu sais, chétifs, ben, en tout cas, très maigres du moins. Puis de l'autre côté, les femmes peuvent descendre autour de 10-11. Est-ce que c'est encore ça là, au niveau de la compétition?
Ben oui, mais il y a deux questions dans ta question, là, dans le sens où oui, c'est encore ça au niveau de la compétition, dans le sens que c'est ça qui veulent. Là. Ils veulent que la personne soit le plus lean possible pour que les muscles soient le plus définis. Par contre, au niveau de la santé, tu sais, est-ce qu'on a établi un pourcentage de gras idéal? J'ai envie de te dire que les réponses sont jamais aussi simples en santé qu'en nutrition. Tu sais, il y a tellement de facteurs. Tu sais, ton pourcentage de gras, OK, mais qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fumes? C'est quoi ton environnement? C'est quoi ton travail? T'es-tu stressé? Tu dors-tu? Tu sais, c'est tellement plus la santé qu'un pourcentage de gras que tu peux pas dire, OK, ben toi, ça, 16 % de gras, t'es sacoche. Tu sais,
oui. Ça dépend aussi, j'imagine, même de l'IMC, ta grandeur,
même,
c'est ça?
Mais non, mais même l'IMC, là, c'est quelque chose qui tient plus en santé. Ça a été limite aboli, là, parce que c'est une formule qui tient compte de ta grandeur et ton poids. Mais justement, après ça, tu sais, ta masse musculaire. Ouais.
Moi, je t'obèse, là.
Ah oh ouais, genre, c'est
selon
fou,
la,
là.
Selon
c'est
la charte, là, il y avait même des chartes colorées chez le médecin à une certaine époque, là. Puis moi, je suis considérée obèse, là. Mm-hmm. J'ai-tu un petit mou de ventre? Absolument, là. Je suis obèse? Je pense pas non plus. mais la grandeur puis au poids que
ça
j'ai...
Ça n'a pas rapport, suffit que, justement, tu sois un petit peu plus large, tu sais, puis tu rentres pas, tu sais, dans les chiffres. Fait que c'est très difficile à déterminer. C'est vraiment plus, justement, le focus s'en va de plus en plus vraiment sur les habitudes de vie versus comme le poids. Évidemment, dans les gyms, ça change pas parce que dans les gyms, il y a tout l'aspect d'esthétique, tu sais.
Ouais.
Mais si on focus vraiment sur la santé, plus ça va, plus on se détache.
Fait qu'il y a une marge entre être en santé puis être en forme, de ce que je comprends. C'est comme si c'était deux choses.
Ben, je te dirais, il y a une marge entre être en santé puis être lean.
Okay.
Être en forme, si tu es en forme, ça veut dire que tu fais du sport déjà pour ta santé, si c'est favorable.
C'est bien.
Pour moi, être en forme puis être lean, c'est pas la même affaire.
Je comprends.
C'est quoi lean?
Ben, mais mince, en fait.
Qu'on voit tes
être sacoche.
Donc, on peut dire être défini.
Défini, oui.
Défini,
oui.
OK, je comprends. Autre sujet, avant de parler du sujet principal qui est hyper...
Il va te rester du temps.
Il règle ses dossiers, lui, là.
Quand on écoute parler des psychologues ou des psychiatres à la radio, exemple, on aime beaucoup ça, moi et Audrey, les recevoir, ces gens-là. Il y a... puis même moi, je plaide coupable. Là, quand on parle du DSM, là, donc du grand dictionnaire des maladies mentales, tu te dis, mais coudonc, j'ai-tu ça? Moi, il me semble que je corresponds un peu à ce qu'il est en train de dire. Puis ce qu'un psychologue m'avait dit, c'est que c'est sain, des fois, de se poser des questions, savoir, tu sais, OK, quand j'entends quelque chose. Mais dans le DSM, tu peux correspondre à quelques trucs. C'est juste faut que tu correspondes à 100% pour être diagnostiqué comme étant une personne comme telle. Dans ton métier, toi, de professionnel, là, de nutritionniste, y a-tu des gens qui, avant d'aller te voir, commencent à faire des recherches Google, puis finalement, ils arrivent en catastrophe en disant « Écoute, Vanessa, moi, je te baise, mais elle pèse 110 livres. »
Oui, il y a beaucoup d'autodiagnostics. Je te dirais de plus en plus, justement, avec les médias sociaux, là, ouais. dans le sens que souvent, les gens, c'est la porte d'entrée vers « OK, je savais même pas que ça existait. » Tu sais, plus ça va, plus il y a des choses qui sont nommées, plus on met le nom sur certaines choses. Mais je te dirais, à l'inverse aussi, il y a beaucoup de choses qui sont quand même méconnues. Tu sais, je pense notamment à la santé digestive, que comme il y a plein de pathologies ou de troubles, que les gens sont comme « My God, comme ça fait des années que j'essaie de trouver des réponses à mes questions, puis j'en ai pas. » Fait que dans les deux sens, oui. C'est toujours un peu, je te dirais, malaisant, limite, quand les gens y arrivent avec un autodiagnostic ouais. que toi, t'es pas sûr que c'est ça.
C'est parce que toi, t'étudies là-dedans.
Ouais, fait que là, faut comme que tu ramènes les faits sans nécessairement confronter la personne dans ses croyances. Là, ouais. Fait que ça prend quand même un doigté. Mais oui, définitivement. Là, puis je pense qu'effectivement, on est tous, quand on se reconnaît dans quelque chose, on est tous un peu curieux. Fait qu'on va fouiller, on fait des recherches. Ouais. Puis je pense que c'est sécurisant aussi de pouvoir savoir que, OK, c'est ça que j'ai.
Ben oui, parce que sinon, tu te demandes si t'es normal ouais, à un certain point.
Oui, c'est ça, exactement. On cherche une certaine normalité. Quoi qu'en 2025, la normalité, je pense, ça n'existe plus.
C'est éclaté un peu. Là.
L'exemple que je peux te donner, c'est que tu as mal à la tête, tu t'en vas rechercher sur Google les possibilités parce ouais. que tu as mal à la tête, puis ça finit par un cancer généralisé.
C'est ça.
Tu te stresses avant d'aller voir le médecin. Va voir le médecin en premier.
Totalement.
Lui,
mais eux,
dire...
ça doit être épouvantable.
Ben oui.
Les gens, c'est sûr qu'ils arrivent dans leur bureau, puis ils se sont déjà diagnostiqués.
Docteur Google, ben oui. Mais tu sais, les réseaux sociaux, je veux dire, on plaide toutes coupables à un certain niveau, là, mais mm-hmm. de plus en plus, tu as des professionnels. Puis c'est que ça a tellement de bon, mais ça a tellement de négatif aussi. Tu as de plus en plus de professionnels qui vont mettre du contenu sur leur plateforme pour t'éduquer.
Ouais.
Puis ça fait en sorte que toi, tu lis ça, justement, tu te reconnais dans une ou deux affaires, puis assez rapidement, tu t'auto-diagnostiques, mm-hmm. puis tu te retrouves là-dedans. Là. Tu sais, moi, l'hyperphagie, l'une des premières fois qu'on a discuté ensemble, moi, puis Vanessa, puis qu'on a abordé ce sujet-là, là, tout de suite, je me suis dit, tabarnouche. J'ai-tu déjà eu ça, moi, ou j'ai-tu ça? Parce que, tu sais, mais c'est vrai, tu viens que tu cherches à comprendre.
Mais c'est sain de le faire, je pense. Puis nos grands-mères avaient-tu raison? Là, toi, t'es dans un métier assez particulier, le nutritionniste. Là. Tu sais, nos grands-mères
qu'est-ce
disaient, mange ça, ça va t'ouvrir l'appétit. Bois une tasse d'eau chaude après ton repas, là, tu peux être sûr que
tu
ça va... Tu vas digérer mieux.
Ben là, les grands-mères disaient ben les affaires, mais l'eau chaude peut aider à digérer, effectivement. Il y a des choses quand même...
Il y avait raison.
Ben sur certaines choses. Okay. Ça prouve que l'intuition peut quand même être bonne sur certaines choses. C'est-à-dire que des fois, on a comme le feeling, tu sais, que ça nous fait du bien. Ben des fois, on peut l'écouter, notre intuition, si on a le feeling que ça nous fait du bien, fait que...
Ça a été une mode, ça aussi, la nutrition intuitive, si je
c'est
le dis comme
mode,
du monde.
C'est pas une mode, c'est encore très d'actualité.
Oui, c'est encore très présent, parce qu'on dirait que... Puis là, moi, je parle vraiment juste comme consommatrice de réseaux sociaux, dans le fond, là. Mais tu sais, il y a eu tout ce qui est keto, tout ce qui est comme mm-hmm. plus restrictif. Puis à un moment donné, il y a comme eu la vague totalement contraire où là, c'était comme fie-toi à ton intuition pour manger. Si tu sens que t'as le goût d'un verre de lait, mettons, ben c'est parce que tu dois avoir besoin des nutriments puis des patentes qu'il y a dans ton lait. Mm-hmm. Tu sais, fait. Puis tu vois, je me suis toujours posé des questions à savoir à quel point ça pouvait être efficace, ce mode de nutrition-là, parce que moi, on m'a dit que j'ai le goût de chip une couple de fois par jour, Vanessa.
Ouais. Fait
que
tu sais, toute ton intuition est
pas bonne, là. Mon intuition est pas dans le bon chemin, pas en tout, là.
Mais tu sais, c'est un sujet qu'on pourrait réaborder, mais c'est parce que l'alimentation intuitive est souvent mal comprise parce qu'elle nécessite d'amener beaucoup de nuances dans le ouais. discours, ce qui est très difficile à faire sur les médias sociaux parce que c'est des messages qui sont courts. Fait qu'effectivement, le principe de l'alimentation intuitive, c'est pas manger des chips à longueur de journée puis d'écouter tes envies. Tu écoutes quand même ton rationnel qui dit, mais je sais que si je mange des chips à longueur de journée, je me sentirai pas bien.
J'imagine aussi qu'il y a des étapes. Tu sais, si tu t'appelles Gisèle puis que t'es en surpoids à 250 livres, tu peux peut-être pas commencer par l'alimentation intuitive. T'as peut-être une éducation à faire avant de te rendre...
L'alimentation intuitive n'est pas une méthode de perte de poids. C'est-à-dire que ça a pour but surtout d'améliorer ta relation avec la nourriture puis de te sortir de la culture des diètes qui te drainent vers le bas. Mais c'est pas une méthode de perte de poids.
Parfait. Vanessa Daigle, le nutritionniste. Maintenant, on parle de l'hyperphagie. Pour les gens qui ne connaissent pas ça comme moi, qu'est-ce que l'hyperphagie?
Bien, l'hyperphagie, en fait, c'est un trouble alimentaire. Là, tu parlais tantôt du DSM-5. Donc, depuis 2013, en fait, il fait officiellement partie du DSM-5. C'est relativement nouveau, là, comparativement aux autres troubles alimentaires. Donc, ce que c'est vraiment, c'est une perte de contrôle par rapport à l'alimentation. Fait que les personnes qui vivent des crises d'hyperphagie, qu'on appelle, là, ils vont vraiment avoir des crises. Fait qu'ils vont se mettre à manger en très grande quantité, souvent très rapidement, des aliments plaisir, là, fait que des sucreries, des chips, etc. Puis après, ça vient avec avec un sentiment de honte, de culpabilité. Fait que tantôt, tu disais, on connaît tous la boulimie. Fait que c'est un peu la boulimie. La distinction avec la boulimie, c'est que la boulimie va toujours avoir un élément compensateur. Fait que soit qu'on va se faire vomir, soit qu'on va prendre des laxatifs ou qu'on va faire de l'activité physique à l'excès. L'hyperphagie, non. Fait que c'est vraiment juste des crises à n'en plus finir. Vraiment une sensation de perte de contrôle. Là. Fait qu'on mange, on mange, on mange, on mange, on mange. Puis après, on fait comme, oh my God, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à en avoir mal au cœur, pas filé. Fait que la différence, en fait, avec les autres troubles alimentaires, c'est que nous, quand on s'imagine quelqu'un qui vit avec un trouble alimentaire, on s'imagine quelqu'un qui est relativement maigre, tu sais, qu'on voit. Tu sais, des fois, on croise des personnes, puis on se dit, crime, d'après moi, elle a un trouble alimentaire. Visuellement, cette personne-là est maigre. La différence, l'hyperphagie, c'est que tu as un trouble alimentaire, mais souvent, ces personnes-là, vous vous en doutez, vont se ramasser en surpoids. Fait qu'ils n'ont pas le profil typique qu'on s'attend là, d'une personne qui a le trouble alimentaire.
Puis est-ce que c'est un problème physique ou un problème mental? Mm.
Je te dirais que majoritairement, très, très, très psychologique. Là. C'est souvent, je vous dirais, les deux plus grandes causes, en fait, de ça. Là. C'est vraiment émotionnel. Fait que les gens vont aller remplir un vide. Là. Ils savent pas trop pourquoi. Puis ils mangent. T'sais. Souvent, en fait, quand j'ai des clients hyperphagiques, ils flirtent avec la dépression. Là. Souvent, il y a vraiment quelque chose de lourd là, dans leur quotidien qui doit être adressé. Ou, justement, c'est des gens qui veulent tellement perdre de poids qu'ils vont couper les calories. Puis là, c'est comme, justement, un moment donné, le corps a besoin de s'alimenter. Là, fait que le corps t'amène à manger, mais quand tu commences à manger, là, c'est comme si c'était plus fort que toi. Là, tu perds le contrôle. Fait que la restriction puis la santé psychologique, c'est vraiment les deux plus grandes choses qui peuvent mener vers ça. Il y a aussi de la littérature qui a démontré que le TDAH pouvait vraiment avoir un lien avec l'hyperphagie parce que le TDAH est associé à une plus grande part d'impulsivité. Puis l'impulsivité, justement, dans la crise hyperphagique est très associée. Fait que les gens qui ont un diagnostic de TDAH, ils ont plus de chances de souffrir de crise hyperphagique.
Hmm. Est-ce que, mettons qu'on prend les troubles alimentaires at large, là, de façon plus large, là, est-ce que c'est toujours provoqué par un événement, une situation, un certain choc ou c'est, je vais dire, inné? Tu sais, peu importe quel trouble, quand tu te ramasses dans un trouble alimentaire, c'est-tu parce qu'il y a un déclencheur absolument?
Bien, je te dirais qu'il n'y a pas nécessairement un événement déclencheur. Ça peut être un contexte. T'sais, ça peut être justement, mettons, t'sais, là, je suis rendue adolescente, puis je me fais écœurer, t'sais, parce que j'ai des courbes. Ça peut être, t'sais, dans les sports, là, il y a certains sports qui sont très associés aux troubles alimentaires, là, genre la danse, la gymnastique, le plongeon, t'sais, tout ce que tu dois être fit. Fait que souvent, ils sont tellement contrôlés, puis ils sont tellement comparés, puis ils sont tellement jugés sur leur physique que ça va déclencher. Fait que oui, il peut y avoir un déclencheur, mais il peut y avoir aussi un contexte, puis la personnalité aussi. Des gens qui sont très perfectionnistes, qui veulent à tout prix avoir le contrôle sur quelque chose, c'est des personnalités qui ont plus tendance à développer des troubles alimentaires.
OK. Moi, je ne crois pas avoir de problème alimentaire, mais je sais que quand je mange un repas que je trouve excellent, là, je suis capable de me rendre au bout de l'assiette sans aucun problème, même si je sais que je suis plein. Mm-hmm. Je suis capable de remplir ça jusqu'au bouchon sans problème. Puis, je me souviens qu'à un moment donné, je me regarde dans le miroir. Je me dis, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte, tu sais. Je suis capable d'emmagasiner. C'est pour ça que je t'ai posé la question à savoir si c'était physique ou mental, parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments de ma vie sur plusieurs semaines où je remplis ça là, à pleine capacité puis que j'étire mon estomac.
Mais ça, en tout cas, bienvenue chez les femmes, là.
Ah, vous êtes toutes de même.
Corrige-moi, Vanessa, là, mais je mange une petite collation, même si elle est saine. Je veux dire, le matin, tu te lèves, là, t'es fière de ton corps parce que t'es donc bien flat, tu comprends, puis mince, t'as le ventre plat, t'es donc bien content. Puis t'arrives le soir chez vous, puis t'as l'impression d'être enceinte de 4 mois. Là. Mais c'est ça, là.
Mais ça, moi, dans mon cas, là, ça gonfle en sacrifice après souper. Quand j'ai mangé quelque chose que j'aimais, là, je suis capable de prendre 3-4 autres portions sans aucun problème. Puis ça gonfle, puis je me dis... Ben là, souvent, je suis sur le point de m'endormir. Hein. Faut que j'arrête. Mais je me dis, pourquoi c'est comme ça? Il y en a qui arrêtent, là, ils sont pas encore rendus au point de non-retour. Là, c'est-à-dire,
ils savent quand s'arrêter.
Là, faut que j'arrête, sinon je vais vomir. Fait, ils savent quand s'arrêter, puis ils savent, en même temps, si je mange plus, ça ne servira à rien, je vais juste accumuler des graisses. J'ai pas ça. On dirait que moi, je suis capable de manger à pleine capacité. Y a-t-il un danger, là?
Mais est-ce que tu te poses des questions?
Aidez-moi, docteur!
Mais est-ce que tu te poses des questions?
Toi, c'est bon!
Ben, c'est ça! C'est juste que tu réfléchis pas!
J'ai un bon repas!
C'est juste qu'il y a des gens qui vont réfléchir, puis ils vont se dire, OK, peut-être que je vais pas filer après si je continue de manger, fait qu'ils vont arrêter.
Ah non, c'est
toi,
ça.
Toi, tu manges, comme, puis tu t'en fous probablement. Tu t'es pas en surpoids.
En cas de doute, t'as le gaz au bout.
C'est ça. Fait que c'est, moi, je pense que c'est dans ta personnalité.
Quand je vais. Ouais, c'est ça, c'est
pas. C'est toi le problème!
Mais si, mettons, quelqu'un veut me tuer, là, tu m'offres un resort 5 étoiles. Pendant un an, là, tu peux me voir au buffet matin, midi, soir.
Mais tu trouves pas que c'est pas le fun?
Genre, moi, j'aime ça.
Ah, mais non, oui, mais tu files pas après.
Quand c'est bon.
Oui, tu sais, moi, mettons, le monde qui mange de la poutine sur l'heure du dîner puis qui vont travailler après, là, je suis comme arc.
Oh, moi,
comment être productif
ça.
Après une poutine? Genre.
Ben, moi, je suis très productif après une poutine.
Je te dis pas, moi, tu vois, je te dis pas que je suis productive, mais c'est comme si le plaisir est tellement grand que dans
qui
ma
surpasse.
Balance.
Ouais, c'est
je suis comme, je file. Tu sais, hier soir, mettons, on fête mon beau-frère à la maison. Ma belle-sœur a fait un de ces gâteaux au chocolat, là, comme j'ai rarement mangé. C'était tellement bon. J'avais une petite pointe. Puis là, je me suis dit, Audrey, c'est assez.
Donc,
t'as
Audrey
assez
réfléchit comparativement.
Ouais, mais
Yann.
Le problème, c'est que j'ai un dédoublement de personnalité, visiblement, là, parce qu'il y en a un qui tue l'autre. Là.
Tu réfléchis, puis t'en as repris.
J'en ai repris, tu dis? Hey, quand ils sont partis chez nous, j'ai dit à mon chum, j'ai le goût de vomir, je peux pas aller me coucher, ouais. Ça descend pas.
C'est trop bon. Mais il y a un auditeur qui a mis le doigt sur le mot que je cherchais, là, satiété. Je ne ressens pas la satiété.
OK, tu la ressens pas.
Quand je mange un bon repas.
Mais tu la ressens quand tu manges
quand c'est moi
un
qui
mauvais
fait,
repas.
Quand c'est moi qui fais ma bouffe, là, je mange juste mon sandwich.
Mais c'est parce que c'est sûr que tu la ressens, c'est juste que tu ne l'écoutes pas.
C'est ça.
Puis dans le fond, c'est quand on mange des aliments plaisir, un peu comme ton histoire de gâteau hier, quand on mange des aliments qui sont, tu sais, des aliments de la nature, là, mettons, ça n'a pas ce potentiel-là. Fait que, tu sais, tout ce qui est fruits, légumes, noix, graines, ça, on ne va pas se ramasser là. Quand on se ramasse avec des aliments qui ont un mix de gras, de sucre, de sel, tu sais, là, on a comme la palatabilité qui est vraiment au top, puis ça va vraiment stimuler notre système de récompense au niveau du cerveau, ce qui fait en sorte que là, on s'active, tu sais, c'est un peu comme la fameuse drogue, là. On active le truc qui fait en sorte que, OK, j'en veux encore, puis ça devient difficile d'arrêter. Ça devient difficile d'arrêter pour tout le monde. La différence, c'est, ben faut qu'on se parle, il va toujours avoir une part de discipline dans l'alimentation, là.
Ouais,
mais il y a des gens, pour revenir au sujet de l'hyperphagie, il y a des gens que c'est pathologique, puis que là, justement, c'est vraiment comme, ça prend le dessus, vraiment une perte de contrôle, là. Ils ont l'impression d'être déconnectée.
Puis on entend parler de l'hyperphagie de plus en plus, j'ai l'impression, parce que moi, avant l'année passée, mettons, j'avais jamais entendu parler de ça, l'hyperphagie. Et puis c'est comme un cercle vicieux de ce que je comprends, t'en sortir, ça a l'air assez compliqué, là. Et c'est-tu fréquent? Y a-tu bien du monde que tu vois maintenant dans ta pratique qui sont atteints de ça?
Mais en fait, je dirais, je vois beaucoup de personnes qui disent avoir des crises d'hyperphagie. J'ai très peu de personnes qui ont un réel diagnostic d'hyperphagie. Fait que, tu sais, des fois, les gens vont dire, moi, je pense que j'ai ça. On parlait tantôt de l'autodiagnostic, tu sais. Puis des fois, c'est pas nécessairement ça, dans le sens que les gens peuvent avoir des crises, ils peuvent déraper, tu sais, un peu comme tu disais, moi, tu sais, je me disais, j'avais tout ça. Probablement que c'était pas de l'hyperphagie, mais que t'avais des moments que tu mangeais en trop grande quantité, puis tout. Mais je te dirais, peu importe que les gens soient diagnostiqués ou pas diagnostiqués, que ce soit une vraie hyperphagie ou pas une vraie hyperphagie, dans le fond, on s'en fout parce que la finalité, c'est que les gens, la souffrance est la même. Les gens, ça les rend anxieux. Ils se sentent pris avec un cercle, justement. Puis souvent, ce qui va exacerber le problème, dans le fond, c'est que ces personnes-là, à cause des crises d'hyperphagie, ils vont prendre du poids. Là, ils vont capoter, fait qu'ils vont vouloir perdre du poids. Fait qu'ils vont se mettre à couper, manger moins. Dieu. Fait que là, ils vont avoir de plus en plus de crises. Fait que la première chose à faire, ces gens-là, dans le fond, ils nous consultent, puis ils sont comme, OK, moi, j'ai des crises d'hyperphagie, puis il faut que je perde du poids. Fait que je veux perdre du poids. Je suis comme, mais je suis désolée, mais comme la première chose à faire pour régler les crises, c'est de cesser temporairement de vouloir perdre du poids. Puis de toute façon, la meilleure chose qui peut te faire perdre du poids, c'est d'arrêter d'avoir des crises, là, à court terme. Là. Mm. Fait que arrête la restriction, mange dans le jour. Tu sais, même des fois, on va même faire une cédule, OK, tu te poses pas de questions, là. Tu manges à telle heure, telle heure, telle heure, tu sais, pour que, comme, t'ailles pas à réfléchir, là. Ah, je mange-tu, je mange-tu pas, je mange-tu ça, je mange-tu
pas. Puis ton corps s'habitue aussi.
Tu réalimentes ton corps pour qu'il arrête de te donner ces crises-là, tu sais.
D'être en privation constante.
Hey, beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent, Vanessa Daigle, nutritionniste. Salut, je suis diagnostiquée par un psychiatre qui est un spécialiste des troubles alimentaires. Je suis hyperphagique. Est-ce que être hyperphagique, tu l'es toute ta vie?
Pas nécessairement. Je te dirais que moi, j'ai eu plusieurs personnes aussi qui me disent qu'ils ont eu des épisodes hyperphagiques et que c'est maintenant réglé. Ça va toujours rester avec une fragilité, une sensibilité.
C'est un peu comme l'alcool, exemple?
Ben oui, puis non, dans le sens que tu vas jamais arrêter de manger, tu sais. Fait que tu restes toujours avec une sensibilité.
Comme l'anorexie, finalement.
Oui, tu vas toujours, tu sais, ton bagage va toujours rester. Tu as une fragilité, tu as une relation avec la nourriture qui peut facilement flancher. Des fois, il y a des personnes qui disent, OK, j'ai une meilleure, une phase où, mettons, pendant 8 ans de ma vie, j'ai pas eu de crise, je me suis séparée. Là, je suis retombée dans mes vieux patterns, puis là, c'est revenu, tu sais. Fait que cette fragilité-là, elle demeure, ça va toujours faire partie de leur bagage. Puis c'est important de le nommer aussi quand on consulte, là, justement, parce que la stratégie va être différente. Il va falloir, faut vraiment en tenir en compte, tu sais, qu'il y a cette fragilité-là. Là.
Qu'est-ce qu'on fait? Pour régler ça?
Ouais.
Ben, dans le fond,
c'est vrai que ça manquait de contexte.
Qu'est-ce qu'on fait, Vanessa? Ben, découragée, ben, on fait quoi?
Est-ce qu'on exclut les personnes qui parlent?
Elle exclut la personne qui parle. Je suis gourmande. Ça, je pense que c'est classé. Je suis très gourmande. Je pense pas avoir un diagnostic demain matin, par exemple.
Ben, dans le fond, la première chose, c'est vraiment de trouver la cause, en fait. Tu sais, comme dans n'importe quoi. Là. Pourquoi tu t'es ramassé à avoir des crises d'hyperphagie? Tantôt, je parlais de dépression. Tu sais, c'est con, mais il y en a qui ont des choses à régler dans leur vie. Puis si tu vas régler des choses dans ta vie, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir moins cette impression de vide-là, puis ça va enlever les crises. Après ça, justement, de diminuer la restriction, de réalimenter ton corps, d'arrêter de voir les aliments comme étant genre ça, je peux les manger, puis ça, je peux pas. Parce que souvent, tout ce que tu vas manger pendant les crises, c'est ce que tu peux pas. Tu sais, il y a un ménage psychologique à faire aussi au travers de ça, de réapprendre à écouter ses signaux corporels. Tu sais, on est vraiment là-dedans parce que souvent, les gens, c'est des gens qui ils savent là, c'est quoi manger sainement. Là. Tu sais, on n'est pas là, là. C'est vraiment qu'ils dérapent. Puis c'est très psychologique, comme on le dit au début.
Vanessa Daigle, ça prend combien de temps au cerveau à t'envoyer un message quand il considère que tu es rempli là, à satiété?
Bien, la science dit 20
minutes. J'essaie de trouver comme un moyen. C'est peut-être mon cerveau qui est problématique, qui ne m'envoie pas le signal de satiété quand j'étais au buffet au Mexique. Là.
Mais laisse-toi du temps. Tantôt, là, je parlais de l'histoire de l'impulsivité. Là.
Ouais.
C'est que des fois, on est trop activé. Puis je le vois, il y a quelque chose de très inné aussi.
Mais les
là.
Desserts sont là, puis ils t'attendent.
Mais oui, mais ils vont attendre.
Ils sont gratuits. Ouais. Ils t'appellent en plus. Des fois, j'ai l'impression qu'ils me parlent.
Ils crient les tannins.
Oui, mais tu sais, si tu te laisses du temps, dans le fond, notre cerveau, il est constitué en 3 cerveaux. Hein. Ouais. On a le cerveau comme qui est impulsif, après on a le cerveau émotif, puis on a le cerveau rationnel. Puis ils vont tous rentrer en jeu, dans le fond, un après l'autre, là, de manière synchronisée. Puis si on agit trop vite, on agit de manière impulsive, émotive, on se laisse pas le temps d'arriver à notre rationnel. Fait que c'est là qu'après on se dit, ben voyons, c'est bien clair, tu sais, pourquoi j'ai mangé ça? Ou j'aime même pas ça, tu sais, Fait que des fois, de se laisser du temps. L'autre chose que tu nommes dans ton fameux buffet aussi, c'est l'environnement.
Ouais.
Plus qu'on est exposé à des aliments de même, plus c'est difficile de résister.
C'est de leur faute.
Ben
à
oui,
autres.
Clairement.
Mais c'est l'effet fondu. Là. Tu sais, quand tu manges une fondue en famille, oui. Là, qui sait qui arrête de manger quand il n'y a plus faim? Tu te lèves, tu te rends compte de la brique que tu as dans l'estomac. Tu sais, c'est tout le temps ça.
Oui, ouais, fait que tu sais, de diminuer son exposition dans les buffets, tu sais, à un moment donné, va-t'en.
Est-ce que boire de l'eau, exemple, un peu avant le repas et pendant
le
repas...
Ah oui, on entendait ça avant.
Est-ce que ça l'aide? Ça, c'est des fameux trucs de grand-mère.
Ben oui, c'est ça. Prends deux verres d'eau avant de manger.
Les autres, ils nous faisaient prendre une soupe.
Ah, oh, Seigneur!
Bien, la soupe, ben, tu peux y avoir quelque chose là-dedans. Fait que oui. Le verre d'eau, non. Là, dans le fond, le verre d'eau va t'hydrater. Il y en a qui disent que ça prend de la place dans ton estomac, mais tu sais, c'est quand même très vite absorbé de l'eau. Là. Fait que,
c'est pas tant vrai,
à moins que, justement, on dit souvent la soif flirte, la sensation de soif flirte avec la sensation de faim. Fait que si finalement, tu avais soif, mais ça se peut que tu aies l'impression que ça l'apaise ta faim, mais sinon.
C'est pas si vrai que ça.
Non.
On a déjà parlé de pleine conscience, puis Yann, ça rejoint peut-être un peu tes problèmes, là. Mais c'est quoi la pleine conscience quand on parle d'alimentation? Parce que j'ai l'impression que pour bien du monde, c'est peut-être un peu trop spirituel puis ésotérique.
Ça rejoint mes problèmes d'inconscient, c'est ça?
Tout ça, Yann.
Ben, en fait, on est tous inconscients, je vais te le dire.
Oui, ça, c'est vrai.
Mais la pleine conscience, justement, les gens ils disent que c'est ésotérique, mais genre, la pleine conscience, c'est juste d'être concentré dans le moment présent plutôt que d'être dans le passé ou dans le futur. T'sais. 99 % du temps, soit on pense à quelque chose qui est déjà arrivé, ou soit on a peur de ou on pense à ce qui s'en vient. T'sais. Mais on peut-tu juste être là, live, maintenant? Fait que plus qu'on. Puis moi, je dis toujours, c'est comme un exercice, c'est comme d'entraîner ton corps à avoir cet outil-là quand tu vas en avoir de besoin. Fait que si, dans le quotidien, tu n'as pas besoin de méditer, là, genre, va prendre une marche, puis pendant que tu prends ta marche, ben, t'sais, au lieu d'écouter un podcast, au lieu de parler avec quelqu'un, t'sais, va prendre une marche seule. T'sais, préoccupe-toi de la température de l'air, regarde les fleurs, t'sais, sois juste fais juste prendre une marche. Tu es concentré sur le moment présent, c'est ça. Puis plus que tu réussis à faire ça au quotidien, plus qu'à un moment donné, si tu as l'impression que tu perds le contrôle, justement, tu vas être capable de te ramener dans le moment présent puis de te ressaisir.
D'arrêter de te surstimuler, finalement.
Exactement. Oui, c'est vraiment ça. C'est juste d'être, dans le fond, c'est juste d'être concentré dans le moment. Là. C'est absolument. Puis il y a vraiment de la science qui démontre que ça, plus que tu es capable, plus que tu es habile à te ramener dans le moment présent, plus que ça a un impact favorable sur tes choix alimentaires et même les crises hyperphagiques.
Moi, j'aime se poser des questions comme ça. J'ai l'impression que c'est je suis dans un cabinet d'un éminent psychologue qui peut m'aider grandement. Puis, je ne suis pas le seul. Là. Il y a plein d'auditeurs qui nous écrivent au 418-971-1021 pour avoir des conseils de notre nutritionniste qui est Vanessa Daigle. Il y a Simon qui dit « Salut Vanessa, moi je fais super attention dans le jour et même au souper, je fais attention et je vois vraiment des différences sur mon corps. Le problème, c'est que juste avant de me coucher, j'ai tout le temps des méga cravings de sucre. Puis des fois, ben, je flanche. T'sais. Puis je veux pas scraper mes efforts du reste de la semaine. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'avant de se coucher, on a tout le temps le goût de manger? Puis moi, j'ai eu des... Bon, je n'ai pas eu énormément. J'ai eu des femmes dans ma vie qui se levaient la nuit pour aller grignoter. C'est quoi? C'est le cerveau qui en demande?
Mais c'est qu'il y a tellement de choses là-dedans, tu sais, c'est que ça peut tellement être variable d'une personne à l'autre.
Ouais.
Premièrement, tu sais, il dit qu'il fait attention dans la journée, mais comme est-ce qu'il y a assez mangé? Parce que si t'as pas assez mangé puis que là t'arrives pour aller te coucher, mais ton corps va te dire qu'il a besoin d'énergie. C'est quoi l'énergie la plus rapidement absorbée? C'est le sucre. Fait que tu vas avoir un craving de sucre. Après ça, si tu la fatigues, tu sais, est-ce que justement quand t'es fatigué, ben ton taux d'hormones de sérotonine au niveau du cerveau va diminuer. Fait que là, ton corps va t'en demander, puis le sucre a ce potentiel-là. Je vous le disais tantôt avec le système de récompense qui se stimule au niveau du cerveau.
Ouais.
Fait que là, tu vas te sentir temporairement mieux. Tu sais, est-ce que c'est une habitude? Est-ce que lui, il est tellement habitué d'aller manger du sucre avant de se coucher, que là, il arrive pour aller se coucher, puis là, puis il se met à penser au sucre. Puis là, ça devient difficile de penser à d'autres choses.
Moi, j'ai un rush de sel. Quand j'arrive, mettons, de ma game de hockey, là, puis j'arrive à la maison, j'ai un rush de sel.
Ça me prend des électrolytes.
Ça me prend des chips. Puis là, puis là, il y a comme frigidaire qui s'en trouve tout seul. Là, tout d'un coup, il y a une lumière qui sort. Puis c'est ma Coors Light qui m'appelle aussi.
Mais là, Yann, as-tu entendu ce que Vanessa dit?
C'est électrolytes.
Oh, ouais, ben c'est oui,
ça. Ça va t'acheter des petits sachets. Là, mets ça dans ton eau ou dans le char que tu bois sur le retour. Tu ne ressentiras pas ça.
Mais peut-être que tu vas quand même avoir le goût de ta bière.
Oui,
ouais, ça, c'est une possibilité.
Ça, il n'y a pas ça
d'essai. Mais ça, il y a quelque chose de. C'est ton cerveau qui t'envoie un signal. J'ai besoin de sel pour essayer de conserver le plus d'eau possible.
J'ai une question sur. Ça serait ma dernière concernant l'hyperphagie, mais concernant tout trouble alimentaire. Puis on parlait d'alimentation intuitive, puis ça m'a fait penser à la façon dont on est éduqué. Quand j'étais jeune, puis maman, papa, je vous en veux pas, là, mais ça a toujours été comme ça. Finis ton assiette, t'auras pas de dessert sinon. Est-ce que ça peut jouer dans la relation qu'on développe très, très jeune avec la nourriture?
100%.
Tu seras pas poli si tu finis pas ton assiette quand tu vas chez quelqu'un.
Tellement de personnes qui me le nomment. Là. Je dirais que ce qui revient le plus souvent, c'est le fameux « j'ai vu ma mère être à diète toute sa vie », puis là, justement, tu sais, c'est des choses qui reste, et ça, c'est pas bon, ou bien ma mère mangeait différemment, ou bien justement, il faut que je finisse mon assiette. Ou le fameux, comme, puis c'est tough en tant que parent de pas aller là, mais de genre, si tu fais telle affaire, je vais te récompenser, mettons, avec, tu vas avoir ton dessert, ou bien tu vas avoir...
On va aller chez McDo.
Ouais, c'est ça, veux pas, l'alimentation est quand même une récompense, tu sais, puis ça va toujours l'être, là, tu sais, l'alimentation est quand même associée à quelque chose qui est festif, qui est le fun, tu sais, fait que oui, ça laisse des traces. C'est quand même dur en tant que parent de pas aller là. Mais tu sais, c'est pas l'idée, c'est de pas aller là jamais, mais pas que ça soit toujours la récompense. Sinon, effectivement, on est en train de créer des comme, ben moi, je me récompense comment avec l'alimentation.
L'association.
Ouais, c'est ça.
Question aussi, Vanessa, par texto. Est-ce que de manger avec des distractions, que ce soit la TV ou le cellulaire ou un spectacle devant nous, est-ce que ça peut avoir un impact sur le fait qu'on ne ressente pas cette fameuse satiété-là?
Ben oui, effectivement, parce qu'on n'est pas concentré sur comment on se sent. T'sais, tantôt, on parlait du pouvoir d'être dans le moment présent, mais quand on fait d'autres choses en même temps, on fait clairement pas ça. Fait qu'on est moins attentif. Fait que si on est moins attentif, ben peut-être... T'sais, peut-être notre corps nous envoie le signal, mais on n'est tellement pas à l'écoute que nous, on le ressent pas. Puis ça, c'est scientifiquement démontré, là, en fait, qu'on ne devrait pas nécessairement faire ça. Là.
Qu'on devrait manger à table, se concentrer là-dessus.
C'est ça, exactement.
Le pire, c'est que c'est tellement un plaisir. Là.
Mais tu vas le subir, là, toi, à l'abbaye Saint-Benoît où tu vas aller. Là.
Ah ouais.
Bon, ben tu vas manger à table dans le silence, à côté de nonnes, des sœurs cloîtrées qui regardent leur assiette et qui te regardent pas.
Tu vas là.
Tu vas manger, puis tu vas être concentré, puis tu n'entends absolument rien.
Ouais.
Moi, je l'ai vécu pendant 3 jours. Là.
3 jours, c'est long. Hein?
C'est long.
Mais ça doit faire du bien.
Mais ça fait du bien. Je m'étais amené assez de lecture, fait que je me suis pas tant ennuyé, là, mais honnêtement, ça a été assez weird de me concentrer sur mon assiette. Je me souviens pas d'avoir fait ça dans ma vie.
Mais c'est ça. Mais c'est un exercice à faire qui peut être intéressant. Oui. Des fois, les gens s'imaginent que c'est ça, justement, l'alimentation intuitive est très mélangée avec l'alimentation pleine conscience. T'sais. On va pas faire, on s'entend, là, on fait pas ça trois fois par jour.
Non, c'est ça. Mais c'est tellement un plaisir. Tu sais, moi, il y a rien de plus satisfaisant, Vanessa, là, quand je veux, mettons, être chez nous un vendredi soir, là, de passer au DEP puis de manger des cochonneries en écoutant un film ou en écoutant la TV. Ou on dirait que on associe justement...
C'est réconfort.
Oui,
c'est
exactement.
Le réconfort.
C'est des déconnexions qui sont pas faciles nécessairement à faire.
Vanessa Daigle, on vous trouve où, Madame la nutritionniste?
Madame la nutritionniste, je sais pas ça. Sur Instagram principalement, là, je te dirais Van Baramba Nutritionniste. Sur mon site web aussi, vdnutrition.com.
C'est toujours un plaisir en espérant te reparler parce qu'on va acquérir des problèmes les prochaines semaines.
Assurément.
On compte sur toi pour régler nos problèmes ainsi que les problèmes de nos auditeurs au 418-971-1021. Il y a beaucoup de participation, c'est le fun.
Vraiment.
Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Vanessa Daigle, bye-bye!
Bye-bye!
On fait une courte pause et on vient.